Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a promis aujourd'hui, pour les 10 ans de son investiture à la tête du pays, d'accélérer le rythme des réformes et d'intensifier la lutte contre la corruption dans un pays à l'économie en berne. Ce 10 ans, et je cite, déterminé à aller au bout de sa mission. Je me sens bien et de mieux en mieux chaque jour, a assuré le chef de l'État gabonais en préambule d'une interview publiée par le quotidien pro-gouvernemental L'Union près d'un an après avoir été affecté par un AVC, un accident vasculaire cérébral qu'il a longtemps tenu en retrait du pouvoir. Pour sa part, l'opposition gabonaise et aussi les économistes estiment que le Gabon n'a pas su profiter de la manne pétrolière pour diversifier sa production avant que la chute des prix de l'or noir en 2014 ne dégrade profondément son économie. Afrique centrale toujours, en République démocratique du Congo, 45 prisonniers sont morts depuis le début de l'année, faute de soins à la prison de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Le personnel soignant y a déclenché un mouvement de grève, Eddy Isango.
La prison centrale de Bukavu est surpeuplée. Les conditions de vie sont très difficiles pour les détenus et la rupture totale du stock de médicaments explique le nombre élevé des 45 décès de janvier à ce jour, a dénoncé les syndicats du personnel soignant dans un mémorandum adressé au gouverneur de la province du Sud Kivu. Le personnel soignant a déclenché une grève depuis lundi 14 octobre. Leurs revendications sont fondées, mais la procédure utilisée n'est pas appropriée, a réagi José Ntumba, directeur de la prison. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, a de son côté indiqué que la situation dans cet établissement pénitentiaire était à l'étude. Construite à l'époque coloniale, la prison de Bukavu a une capacité d'accueil de 35 détenus, mais la population carcérale est actuellement de 1850 prisonniers.
Au Zimbabwe, les 300 000 employés de la fonction publique ont annoncé leur intention de ne plus se rendre à leur travail. Leur syndicat, l'Apex Council, a indiqué hier que les salaires ont perdu toute valeur à cause de l'inflation galopante. Le point avec Kiki Abadou.
Les salaires sont passés en moyenne de $500 américains en 2018 à $40 américains selon Cécilia Alexander, présidente du syndicat des travailleurs du secteur public. L'Apex Council a donc notifié au gouvernement que les fonctionnaires sont dans l'incapacité d'aller au travail. Cette décision intervient alors que les médecins des hôpitaux publics sont en grève depuis 44 jours pour exiger eux aussi une revalorisation de leur salaire. Les médecins refusent de mettre fin à leur mouvement, défiant une décision de justice. Les infirmiers des deux plus grands hôpitaux de la capitale se sont joints à eux. Lundi, le syndicat des enseignants en zone rurale avait aussi appelé ses membres à cesser d'aller au travail. Le Zimbabwe, dans une grave crise économique, a renoué avec les pénuries de toutes sortes, la dégringolade de sa monnaie locale et l'hyperinflation.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, la situation reste tendue en Guinée où de nouveaux heurts ont opposé mardi des centaines de manifestants aux forces de sécurité à Conakry, la capitale. Au deuxième jour d'une mobilisation meurtrière contre un possible troisième mandat pour le président Alpha Condé. Des jeunes ont érigé des barricades, brûlé des pneus et lancé des pierres sur des policiers et des gendarmes, à nouveau massivement déployés dans les quartiers périphériques de la capitale et les fiefs de l'opposition. Les forces de l'ordre ont riposté par des tirs de gaz lacrymogènes. Et Rick Manirakiza a joint le même jour à Conakry le chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo, leader de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée.
La maison est encerclée par des camions militaires, au moins une dizaine. Je n'ai pas le droit de sortir de ma maison depuis hier matin. Mais les Guinéens sont sortis massivement pour exprimer leur opposition à la modification ou au changement de notre constitution pour pouvoir octroyer une présidence à vie à Michel Alpha Condé. Il faut s'en réjouir. Les Guinéens se sont exprimés et j'espère que Alpha Condé va comprendre le message délivré hier par le peuple de Guinée. Il y a eu, malheureusement, de l'autre côté, l'usage des les armes à feu par les forces de défense et de sécurité. Six compatriotes ont perdu la vie. Ils ont été abattus à bout portant par les forces de l'ordre. Et les manifestations continuent, malheureusement. Et le carnage continue dans la banlieue, notamment dans la commune de Ratona, où les gens continuent de tirer à bout portant. Ils rentrent dans les quartiers, renversent les marmites de riz et sont en train de bouillir pour la famille et insultent les femmes et les violentes tout en proférant des injures de nature ethnique contre les citoyens.
Et quand est-ce que vous comptez arrêter les manifestations? Qu'est-ce que vous exigez?
À la satisfaction de nos revendications.
Oui, mais vous revendiquez, le président Alpha Condé n'a pas encore dit qu'il va briguer un troisième mandat.
Si. Il a déjà dit même à New York, il a demandé à Pétain de se préparer pour le référendum, pour changer de constitution. Il a instruit le ministre des Affaires étrangères de demander à toutes les ambassades de convaincre les institutions et les gouvernements auprès desquels ils sont accrédités de la nécessité pour la Guinée de changer de constitution. Des éléments de langage ont été élaborés et remis aux ambassadeurs qui ont déjà commencé leur démarche. Et tous les jours, il y a des manifestations ici pour essayer de justifier justement le troisième ou le quatrième mandat pour Michel Alpha Condé en disant qu'il faut qu'il finisse ce chantier. Les promoteurs du troisième mandat organisent toutes sortes de manifestations publiques avec la bénédiction des préfets et la protection des forces de l'ordre. Alors que les adversaires du troisième mandat, lorsqu'ils veulent manifester, on rappelle que les manifestations sont interdites.
Mais le projet de constitution qui va être soumis à référendum, est-ce qu'il est déjà connu?
Non, il n'est pas encore diffusé, malheureusement. Même le Premier ministre, en affirmant qu'il est à 100% pour la constitution, dit que je n'ai pas encore vu un mot. Mais ce qui est évident aujourd'hui, M. Alpha Condé tient. On souhaite naturellement qu'il renonce de manière irrévocable à ce projet pour qu'on puisse faire face aux problèmes auxquels le pays est actuellement confronté. Il y a la pauvreté qui ne fait que s'aggraver, les infrastructures sont dans un état déplorable. Il y a tellement d'enjeux et les élections législatives, les conditions d'inscription transparentes ne sont pas terminées, sans compter que les élections locales sont loin d'être terminées. Il a suspendu la mise en place des conseils de quartier et des conseils régionaux pour engager l'organisation d'une mascarade électorale au titre des élections législatives. Et c'est contre tout ça que nous manifestons.
L'opposant guinéen Sélou Dalein Diallo à Conakry en Guinée. Afrique du Nord, en Algérie, le chef d'état-major de l'armée et actuel homme fort du pays accuse certains protestataires manifestants en faveur de la contestation d'être payés avec de l'argent sale pour s'opposer à la présidentielle prévue le 12 décembre. Les étudiants sont encore sortis dans les rues massivement à Alger hier pour rejeter cette élection. Le point avec Bagassi Koura.
Des partis insidieuses utilisent de l'argent sale versé par des entités inconnues ayant des objectifs malveillants afin de grossir le nombre de manifestants, a déclaré hier dans un communiqué le général Ahmed Gaïd Salah. Il n'a pas précisé qui il visait ni d'où venait cet argent sale. Hier, des milliers d'étudiants ont encore manifesté à Alger malgré un important dispositif policier. À l'occasion du 34e mardi de contestation, ils ont défilé sans incident jusqu'à la Grande Poste, place symbolique de la contestation. Aussi, chaque vendredi depuis le 22 février, une foule massive manifeste pour demander le départ de tout le système Bouteflika. Le général Gaïd Salah a de nouveau mis en garde hier ceux qui tentent d'entraver la tenue de la présidentielle le 12 décembre prochain.
Politique américaine pour terminer, la sénatrice Elizabeth Warren, figure montante dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de novembre 2020 aux États-Unis, a été la cible d'attaques répétées de ses rivaux, notamment sur son projet de réforme du système de santé, mercredi soir, lors d'un débat télévisé organisé dans l'Ohio. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le vent en poupe, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren a fait pour la première fois l'objet d'attaques directes de rivaux centristes. Très attendu après avoir subi une crise cardiaque, le sénateur indépendant Bernie Sanders, 78 ans, s'est montré combatif dans les premiers échanges, notamment sur le sujet de la santé. La procédure de destitution à l'encontre du président républicain Donald Trump, initiée il y a 3 semaines au Congrès, a concentré une bonne partie des interventions. Ce président est le plus corrompu de l'histoire moderne, a lancé Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Les démocrates du Congrès n'ont pas d'autre choix que d'avancer en direction de sa destitution, a-t-il affirmé. Après avoir été épargnée lors des premiers débats, Elizabeth Warren a reçu le feu croisé de ses rivaux, particulièrement les candidats centristes Pete Buttigieg, un jeune maire quatrième dans les sondages, 5,2%, et Amy Klobuchar, une sénatrice qui l'ont notamment accusée de ne pas avoir de propositions réalistes sur la réforme de la santé ou sur son programme fiscal.
Merci Jean-Gébion sur ce résumé du débat de mardi soir.